On aime entendre des histoires de réussite, hein, réussir un projet, réussir dans la vie, réussir sa vie, ça, des fois, c'est plus compliqué. L'échec, lui, est pas mal moins glorieux. On laisse pas beaucoup de chance à celui ou à celle qui rate son coup. L'échec, c'est comme une espèce de grosse poussière qu'on voudrait bien souvent balayer sous le tapis. Puis bizarrement, puis c'est de ça dont je veux pas parler avec vous ce matin, on garde beaucoup plus souvent ces mauvais coups, ces mauvaises décisions en tête. C'est la première affaire dont on se souvient. Alors que ça devrait être nos réussites qui devraient prendre toute la place. Alors, je vais vous poser la question. Est-ce que vous qui nous écoutez, vous avez plus de facilité à retenir vos échecs que vos réussites? Je vais vous présenter mes invités pour en discuter. Justin Kingsley est auteur et réalisateur, notamment. C'est un créatif. Merci, Justin, d'être avec nous.
Merci à vous.
Et on pensait également à une personnalité publique qui avait connu récemment un revers assez cuisant. Et c'est l'ex-ministre de la circonscription de Châteauguay, ex-ministre de l'Environnement, députée caquiste Marie-Chantal Chassé, qui a accepté de nous parler ce matin. Bonjour, Madame Chassé.
Bonjour Isabelle.
Merci beaucoup de nous parler de votre expérience parce que vous avez eu un baptême politique assez épuisant. Et aujourd'hui, je voulais vous poser la question, comment vous voyez la chose? Est-ce que vous retenez cet échec? Est-ce que pour vous, c'en est un? Comment vous considérez votre séjour comme ministre à l'environnement et votre sortie presque tout aussi rapide?
Mais je m'en nourris de cet échec-là, Isabelle. Je m'en nourris clairement. Effectivement, ça a été une expérience extrêmement intense. Mon avènement comme ministre que ma sortie. Et c'est incroyable tous les cadeaux que j'ai reçus en termes d'apprentissage là-dedans.
Par exemple?
Je vous dirais que la plus grande leçon pour moi là-dedans, Isabelle, puis je pense que c'est une leçon qui s'applique à bien du monde, c'est d'être moi-même. De pas essayer de prétendre être ce qu'on attend de moi, mais d'être moi-même. Ça, pour moi, c'est la plus grande leçon que je retiens de la grande expérience que j'ai vécue dans les derniers mois.
Mmh. Évidemment, j'ai en tête cette fameuse mêlée de presse où on vous a vu un peu, vous avez vu un peu perdu finalement là. Et Marie-Chantal, est-ce que vous diriez que vous étiez pas vous-même à ce moment-là, que vous cherchiez peut-être à tenir le rôle de la nouvelle ministre de l'Environnement parfaite et que c'était pas le cas parce que vous arriviez dans ce dossier-là finalement?
Vous faites référence à la première mêlée de presse au jour 5?
Celle où on voyait clairement que vous aviez de la difficulté à suivre les questions
parce
des journalistes.
Parce que dans le fond, il y a eu deux mêlées de presse. Il y en a eu la première au jour 5 de mon mandat.
Ouais.
Puis la deuxième où est-ce que je faisais sans deux de fièvre. Alors, si on parle de la première, je suis un peu un cas à part. Selon, je suis fière de cette mêlée de presse-là, malgré que je maîtrisais clairement absolument pas mes dossiers au jour 5 comme ministre de l'Environnement, parce que oui, je suis nouvelle en politique, mais j'étais aussi nouvelle en environnement. Mais ce dont je suis fière, avec le recul, malgré tout ce que j'ai vécu, Isabelle, c'est que j'ai osé y aller. Et savez-vous quoi? J'avais hâte d'aller les rencontrer. Là où j'étais un peu moi-même, un peu moins moi-même, c'est que on nous invitait à davantage sourire quand on rencontrait les journalistes. Et savez-vous quoi? Comme moi, je suis une personne qui est naturellement souriante, j'avais pas besoin d'en rajouter.
On vous a dit ça? Est-ce que le mot d'ordre, c'était de dire, là, vous êtes nouveau ministre, nouvelle ministre, vous devez sourire aux médias? On vous a dit ça, Marie-Chantal?
Bien, c'est-à-dire que, comme avec les médias, souvent les joutes sont plus exigeantes. On a eu évidemment des formations, puis c'est la chose à faire quand on débute, et on est 75 députés à débuter. On a eu évidemment des formations, puis ce qu'ils nous invitaient à faire, c'était d'être bienveillant et d'être souriant. Ce que je trouve qu'il y a la chose à faire, effectivement, je vous dirais que moi, cette première mêlée de presse-là, j'ai peut-être un petit peu trop souri, parce que je le fais déjà naturellement. Alors moi, là, c'est back to normal, Marie-Chantal revient à la normale, là, revient naturelle. Tu souris déjà suffisamment. Mais j'étais très contente aussi de les rencontrer. Il faut comprendre qu'au jour 5, Isabelle, je sautais dans l'eau. J'apprenais à nager, simplement.
Justin, t'écoutes Marie-Chantal Chassé, t'en penses quoi?
Ben moi, j'ai été attaché de presse d'un premier ministre, M. Martin, à Ottawa, au début de son mandat. Puis j'ai été un stratège en com qui a conseillé des ministres. Et puis, la première chose que je vais dire, c'est que c'était peut-être un échec il y a quelques mois, mais ce n'est plus un échec. À l'entendre parler, à l'entendre assumer les erreurs qui ont été commises. Je me dis tout de suite, ah, c'est donc le fun d'avoir finalement quelqu'un qui dit oui. Puis voici les erreurs que j'ai commises. Parce que des ministres qui deviennent ministres pour la première fois, qui se sont plantés en point de presse, j'en ai vu. On en a tous vu. Ce que je trouve qui était dur dans le cas qu'on discute ici, c'est qu'on a sauté sur elle, littéralement. Tout le monde a sauté là-dessus. Et clairement, cette personne-là n'était pas prête à vivre ce qui est ce bain médiatique-là.
Mais on saute souvent sur le dos du monde dont on a l'impression qu'ils échouent ou qu'ils font face à un échec. On pourrait parler à Caroline Néron, puis on voulait lui parler d'ailleurs ce matin. Puis Caroline m'a dit, écoute, oui, j'ai envie, mais en même temps, c'est trop tôt. Elle fait encore les nouvelles cette semaine, puis ça la perturbe beaucoup. Là, ce matin, on apprend que c'est Maë Paiement qui a du trouble. Hey, tout le monde a des problèmes d'argent, là. Je veux dire, il n'y a pas juste trois vedettes puis une UT. Alors, est-ce qu'on est trop sévère avec les gens comme Marie-Chantal? Vous l'avez été, vous êtes passé dans le tordeur des médias. Mais il n'y a pas que les médias qu'on a, là. On tire souvent sur les médias, mais les médias qu'on a, les médias sont représentatifs de la société.
Ils ont un travail à faire.
Mais ils sont représentatifs.
Et puis il y a des gens dans la société, c'est parce qu'il y a deux sortes de réactions à l'échec d'une autre personne. Soit qu'il y a de la sympathie, mais il y a beaucoup de gens qui célèbrent l'échec d'une autre personne. Puis il y a des partis d'opposition qui attendent que ça.
Je veux dire qu'ils célèbrent parce qu'ils en tirent profit.
Ils sont contents de voir d'autres gens. Puis il y en a d'autres que ça leur fait pour une raison que j'ignore, parce que je n'aime pas l'insuccès des autres. Mais il y a des gens qui aiment ça quand tu t'enfarges, quand tu tombes dans... Puis tu foires.
Je dirais que moi non plus, effectivement, je me reconnais pas là-dedans. Avec toute l'expérience que je vis, une des choses que ça m'a fait prendre conscience de façon aiguë, c'est qu'on doit essayer de faire évoluer les discours. J'arrive pas, moi. En ce moment, à l'école, à nos enfants, on leur montre à tenir des débats constructifs, à valoriser l'écoute de l'autre. C'est sûr que je rencontre pas ça beaucoup dans nos institutions ici et avec les médias. Et je pense qu'il faut faire des pas dans ce sens-là. Ce qu'on enseigne à nos enfants, on devrait en être des modèles aussi.
Ouais. Marie-Chantal,
moi, j'essaie de trouver.
Allez-y, Marie-Chantal.
Ben, moi, je suis dans cette réflexion-là à réfléchir comment moi, je peux être cohérente dans ces valeurs-là que j'ai de tenir des débats constructifs. J'ai hâte de retrouver, je vous rencontre aujourd'hui Isabelle, je rencontre Justin, j'ai hâte de retrouver encore davantage les médias, j'ai hâte d'établir ma relation avec eux dans ma façon à moi. Mm-hmm. J'ai hâte de marcher ce chemin-là puis de découvrir c'est quoi ma personnalité à moi, comment je vais être moi dans mes échanges avec eux. J'ai très hâte de trouver ma place à moi, ma niche à moi.
Donc, vous aimeriez beaucoup être ministre à nouveau, c'est ça que vous nous dites ce matin, Marie-Chantal Chassé.
Ah non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais je peux vous dire une chose. C'est que de tout ce que j'ai vécu, ce qui est extraordinaire avec l'échec, savez-vous ce que ça donne?
Non.
Vous savez, une des leçons pour le succès, c'est sois focus. Quand arrive une période d'échec, là, je vous dis, là, on est bien focus à vouloir s'en sortir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour s'en sortir, il faut que tu fasses tes apprentissages. Et là, t'apprends, puis quand t'apprends, c'est là que tu te relèves. Alors ça, c'est extraordinaire. Ce que je réalise avec tout ce que j'ai vécu, c'est que c'est pas des portes qui se sont fermées. J'ai le sentiment profond qu'il y a un paquet de portes qui se sont ouvertes devant moi, mais je sais pas lesquelles encore.
Oui, j'allais vous demander lesquelles.
Isabelle, je sais pas encore. Bien sûr que je t'arrive à réfléchir. Je suis quelqu'un qui est venu en politique parce que j'ai le goût de contribuer à l'avancement de notre société, à l'avancement de nos institutions. Je trouve qu'il y a encore des réformes à faire. On a encore de la progression à faire. C'est bien ce qu'on a. Il y a mieux à faire. C'est des choses qui m'intéressent. Il y a des dossiers qui m'intéressent, évidemment.
Mais Marie-Chantal, je vous arrête ici parce que là, je sens que vous partez dans votre cassette.
Non, je ne suis pas dans la cassette. Okay. Isabelle,
non,
non. Pas du tout dans la cassette.
Non, non, mais je veux qu'on reste sur l'échec et le succès, si vous me permettez. Oui. Mais pour l'avoir vécu moi-même par moment, moi, je suis dans les médias depuis 30 ans, et puis je peux vous dire qu'il y a des moments, j'ai fait les frais, moi aussi, de certains collègues qui peuvent écrire des choses profondément malveillantes. Vous parliez de bienveillance tout à l'heure. Il y a des gens qui peuvent être malveillants aussi. Il y a du monde qui nous aime pas. Fait qu'ils en profitent pour, avec le pouvoir qu'ils ont, pour nous caler. Publiquement, venez pas me dire, Marie-Chantal, que ça vous a pas arraché le cœur, puis que vous avez pas été en petite boule au moins 5 minutes dans votre chambre, parce que je me mets sincèrement à votre place, là, j'en aurais braillé une shot, Marie-Chantal. Je peux pas croire que vous l'avez pas fait.
Mais bien sûr, Isabelle, mais tout à fait. Voulez-vous que je vous dise, d'arriver à quelques reprises, on s'entend, là, OK? Tout le long de mon mandat, là, parce que j'en ai reçu des vagues de choc, OK? À chaque fois, je tombais. Puis là, ça me prenait plusieurs heures me remonter. Puis à un moment donné, je me suis mis à compter le nombre d'heures que ça me prenait pour me relever. C'était comme un peu mon défi, parce que je me disais, mais je m'en viens de meilleur au slab que je reçois dans les médias. À quelle vitesse je réussis à me relever? Bon, j'ai pas réussi à me rendre à quelques secondes, là, ou même à quasiment prévoir le coup. Mais oui, Isabelle, on s'entend que j'ai eu mes moments de grande tristesse, parfois même de la colère. Puis la colère, ça a été bon aussi, parce que ça m'a donné de l'énergie pour remonter. Alors, mais oui, bien sûr, absolument. Puis il faut vivre ces choses-là avec intensité. Ça fait partie de l'acceptation de ce que tu vis.
Mmh. Oui, mais aviez-vous besoin de ça? Absolument. Aviez-vous besoin que le Québec au complet vous cale comme ça? Ça a été sévère quand même, jugement qu'on a fait de vous.
Qu'est-ce que je peux dire à part que je sais que ça m'a beaucoup apporté? Alors,
pourquoi, Marie-Chantal,
si on pense,
pourquoi vous avez pas dit en mêlée de presse? Moi, ça m'a souvent... Puis moi, j'ai parlé publiquement, j'ai pas de honte à vous le dire à vous, là. J'en revenais pas comment que vous étiez en point de presse. J'en revenais pas. Je me disais, ma foi, ça se peut pas. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il y dise. J'ai failli vous appeler pour vous dire, Madame Chassé, arrêtez de parler aux journalistes. Vous êtes pas prête. Allez voir quelqu'un qui va vous coacher. Parce que vous êtes comme un appât.
Mais c'est parce qu'elle n'est pas coachable comme les autres sont coachables.
Pourquoi? Exactement. Exactement. Ça, c'est vrai.
Les pires porte-parole que j'ai formées dans ma vie, au début, c'est les personnes qui ont le plus d'intelligence, le plus de réussite, le plus d'expérience dans des mondes autres que la politique. Être porte-parole en politique, c'est pas de raconter toute l'histoire. C'est qu'est-ce que tu enlèves pour que le message soit clair. Tu te sers du journaliste comme un média, un entre-deux, medium, c'est ça que le mot veut dire. Alors, il faut que tu te concentres sur à qui est-ce que je m'adresse, puis il y a toutes sortes de questions techniques qu'il faut que tu te poses. Par exemple, nous, on est dans une entrevue, on est assis, on a une heure, on peut prendre le temps de prendre une plus longue réponse, puis on sait qu'elle va pas être coupée au montage. Mais si Peter Mansbridge du National m'appelle pour un clip aux Nouvelles Nationales, ben là, je le sais que ça va être 5 secondes, peut-être 7.
Pierre Bruneau à TVA ou...
Ben oui, mais j'ai fait ça à Toronto, fait que je me servais toujours de Mansbridge comme l'exemple. Mais oui, M. Bruneau, c'est que là, tu le sais que faut que tu répètes ton message un certain nombre de fois, puis tu peux pas aller ces chemins de campagne, faut que tu restes sur ce que j'appelais l'autoroute du message. Alors, il y a plein de choses à prendre en considération, puis là, on prend quelqu'un qui a un background impressionnant, qui a des...
En affaires, hein, Marie-Chantal,
en plein de domaines. Oui. Mais c'est parce que cette personne-là veut s'expliquer. Elle tient tellement à ce que les gens comprennent le message qu'elle s'aventure dans plein de chemins de campagne. Mais c'est parce que les journalistes, eux, quand ils voient ça, c'est du bonbon.
C'est pas le bon médium.
C'est du bonbon.
C'est ça, c'est ce que j'ai compris, c'est ça. Puis c'était pas le bon médium. Isabelle, on se rappelle, j'ai fait 2 mêlées de presse. La première au jour 5, je vous le dis, j'étais gelée. J'ai sauté dans l'eau, c'était froid. J'ai gelé. C'est ça qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans mon cerveau. La deuxième, Isabelle, je faisais ça en 2 de fièvre. C'est justement la femme d'affaires battante qui dit, on me dit qu'il faut que j'aille au front. Peu importe l'état dans lequel je suis, je vais y aller. Ce que j'ai compris de cette deuxième mêlée de presse-là, dans laquelle physiquement, j'étais absolument pas en état, mais mes neurones, fallait que j'y colle un après l'autre pour qu'ils s'actionnent. Okay? Il fallait pas que j'y aille parce qu'on a un rôle dans la position où est-ce que je suis maintenant. De lancer un message de confiance et rassurant la population. Quand tu files pas physiquement, vas-y pas. Ça, je l'ai compris clairement. Fait que j'ai eu 2 mêlées de presse. Isabelle, juste mettre en contexte, 2 fois 10 minutes. C'est 2 fois 10 minutes.
Ah, mais le dommage, il peut arriver
ça,
en 1 minute,
Ça, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Hein? Ouais. Warren Buffett a dit ça prend une vie bâtir une marque puis 5 minutes pour la ruiner.
C'est
puis
ça.
Là, c'est plus 5 minutes. Là, c'est un seul clic.
Mais comment on se réveille? Comment on se relève? Pardon, vous disiez, j'étais de plus en plus bonne à tomber moins et à me faire moins mal en tombant. J'étais peut-être pas meilleure à me relever vite, mais j'étais meilleure à tomber moins longtemps.
Non, j'étais bonne à me relever vite, Isabelle.
C'est ça, oui.
Je suis debout, Isabelle.
Oui.
Je suis bien, Isabelle. J'ai aucun regret de ce que j'ai vécu, mais aucun regret.
Puis vous n'en voulez pas à François Legault non plus de vous avoir mis au bat comme ça, non?
Pas du tout. J'en veux à personne. J'en veux absolument à personne. Moi, je vous le dis franchement.
Même pas à vous-même.
Oui, c'est la question
même pas
que
à vous-même, Marie-Chantal. Même pas. Moi, je m'en voudrais à moi-même de m'être laissé faire de même
vraiment.
Parce que les journalistes, là, sincèrement, la seule chose que vous auriez dû leur dire, c'est voulez-vous me laisser arriver 5 minutes? Ça fait 5 jours que je suis ici. Le fond vert. Je vais essayer de le comprendre moi-même. On s'entend qu'il y a des problèmes parce que c'est la maudite question du fond vert. C'est quoi le fond vert? C'est quoi le fond vert? Vous le saviez pas. Mais savez-vous ce que vous savez pas, Madame Chassé? C'est qu'il y a un journaliste sur deux qui le sait pas plus. Fait que,
t'sais? Mais l'affaire, c'est que je le savais, le fond vert, Isabelle, je faisais sans deux fièvres. OK?
Oui, mais tout ça pour...
Sans deux fièvres.
Ce que ça a paru, c'est que vous le saviez pas. Fait que c'est ça. C'est juste les apparences. C'est ça?
Ouais. Absolument. Mais non, j'ai aucun regret puis j'ai pas de blâme envers moi parce que je trouve que nous, les femmes, souvent, on attend d'être parfaite avant de faire le saut, d'être plus parfaite.
Ouais.
Et ce dont je suis fière, c'est que j'y suis allée. Regardez, je vous le dis, encore aujourd'hui, j'ai difficulté à comprendre ce médium-là de la mail et de presse. Je suis une fille relationnelle. Moi, j'entends la question de quelqu'un, je veux rentrer dans un échange avec pour qu'on construise ensemble. La mail et de presse, j'arrive pas, là, j'ai 20 personnes.
Mais vous appellerez
moi.
Justin Kingsley la prochaine fois, Marie-Chantal Chassé.
You're my friend, vous êtes mon
non, mais... Les faiseurs d'image donnent les pires conseils aux nouveaux politiciens parce qu'ils disent voici comment
Palpa,
tu t'habilles,
mets
pas rien de carotté, mets pas rien de vert, souris au bon moment,
c'est
regarde
ridicule.
C'est tout sur l'apparence et aucunement sur la substance. Puis là on a une personne qui a de la substance en politique, qui a peut-être besoin de travail, ben beaucoup de travail sur le messaging, sur le point de vue communicationnel, mais ça vient pas de l'apparence, ça vient de la substance interne. Puis là c'est un autre jeu totalement. C'est plus juste répéter ah, oh, ben, elle a fait comme ça, toi, tu fais la même chose, ça va marcher. Non. Pour que ce soit. Puis les gens le savent quand c'est pas authentique. Les premiers mots ce matin,
la
c'était.
La vérité, la vraie, être vrai.
Authentique. Ouais. Si on sent que la personne ne nous dit pas la vérité, ce qui sort de sa bouche ne compte pour rien.
C'est ça. Marie-Chantal Chassé.
Moi, ouais. Les phrases d'ailleurs. J'arrivais pas à répéter des phrases. C'est pas possible. Je leur disais, je peux pas faire ça. C'est pas moi, je peux pas y arriver, faut qu'on prenne le fond du dos.
Puis Marie-Chantal, tu sais, quand on fait 102 de fièvre, d'abord,
oh my God.
Restez dans votre lit, on y va pas. Puis clairement, puis à un moment donné, on peut aussi dire, regardez bien, là. Je vous répondrai plus précisément demain. Là, je suis comme un Québécois sur deux. J'ai pogné le rhume ou j'ai la grippe. Au mois de décembre, tout le monde est malade. Fait quand même que la ministre de l'Environnement l'est aussi.
Ouais.
Non, mais la vérité, c'est vrai.
Comment échanger?
Ouais. Marie-Chantal.
Je ne savais même pas comment échanger avec eux, simplement. Là. Je vous le dis, là, j'arrivais dans l'eau puis je suis dans le genre de chien. Là.
Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Marie-Chantal Chassé, députée caquiste de la circonscription de Châteauguay, qui a été ministre de l'Environnement et qui sera peut-être ministre d'autres choses éventuellement.
Ouais.
En tout cas, c'est intéressant d'entendre son rapport avec le succès et l'échec dans ce cas-ci. On trouvait que c'est un bon exemple, Justin. C'est parfait parce qu'en plus, tu as été toi-même dans ces...
Ça me fait penser à Richard Nixon et Pierre Trudeau. Quand Nixon a quitté la politique, sa dernière conférence de presse, il a regardé les journalistes, il a dit « You won't have me to kick around anymore. » Vous ne m'aurez plus sur qui frapper maintenant.
Ouais.
Quand Trudeau, quelques années plus tard, a quitté son poste, il a regardé les journalistes dans sa dernière conférence de presse, puis il a dit « I won't have you to kick around anymore. » Je ne vous aurai plus à qui donner des coups de pied.
Ouais.
Mais c'est parce que c'est là que tu comprends l'état d'esprit de chacun de ces deux personnages politiques-là et leur approche tactique, comment le personnage qu'il jouait devant les médias, Monsieur Trudeau, c'était un certain style. On le sait, on le sent, tandis que Nixon, c'était le contraire.
Parce que, et ça prouve, Justin Kingsley, qu'on n'a pas tous le même rapport avec les choses, et en particulier l'échec et la réussite.
Oh, pas du tout.
Moi, j'ai des amies qui sont tellement confiantes d'elles. Je pense entre autres à Isabelle Hudon, qui est aujourd'hui ambassadrice du Canada à Paris, qui dit « Je n'ai jamais échoué parce que pour moi, je n'ai jamais eu d'échec. » J'ai eu des demi-réussites, par exemple.
Ouais.
Et je trouve que c'est une bonne façon de placer les choses.
On va
s'arrêter ici. On revient avec vos commentaires. D'ailleurs, si vous voulez nous dire, est-ce que vous avez, vous, plus de facilité à retenir vos échecs que vos succès? 514-790-9850. On va parler d'ailleurs à Martin Fontaine, chanteur personnificateur d'Elvis Presley, que vous connaissez bien tout de suite après la pause. Il va nous dire lui aussi comment il voit ça. À tout de suite, tout le monde. Nous discutons ce matin de nos échecs, de nos réussites, et on se demande comment ça se fait qu'on est mal fait de même. On se souvient plus de quand on a échoué que quand on a réussi. Et pourtant, on devrait être content, s'auto-gratifier de nos réussites. Justin Kingsley est auteur, réalisateur. T'en as eu, toi, tu as cette facilité à te souvenir de tes échecs ou de tes réussites? Lequel tu as le plus de facilité à
Facile, c'est les échecs.
C'est ça.
C'est les cicatrices, parce que c'est des cicatrices qui demeurent et qui durent. Et on y touche, puis on s'en souvient très vite.
Ton plus grand échec, Justin?
Moi, je dirais que c'est mon temps. C'est drôle, on parlait de politique. J'ai fait deux discours sur l'échec. On m'a appelé pour me demander si je parlerais de mes échecs. J'ai dit, finalement, il y a quelqu'un qui veut pas juste qu'on parle de ce qu'on a fait qui est bon. Alors, j'ai sauté sur l'opportunité. Mais mon plus gros échec, c'était en politique. Puis, c'était pas mon travail, c'était mon attitude. J'avais 33 ans, puis je pensais que je marchais sur l'eau comme l'autre à 33 ans. Et c'était ça,
Jésus,
mon erreur.
J'étais
baveux. Ouais. J'avais une arrogance parce que j'étais attaché de presse du premier ministre, monsieur. Puis tu commences à vivre dans ce monde-là. Et j'ai appris très vite que ça sert à rien. T'es dans une équipe, puis tu peux être le meilleur au monde. Faut que tu travailles avec d'autres gens. Faut que les gens aiment travailler avec toi. Tu sais, plein d'affaires de même sur mon attitude. Mais c'est resté avec moi. Et ça reste avec moi. Puis je pense que l'échec, c'est toi qui détermine est-ce que c'est vraiment un échec, puis c'est quoi. J'aime Isabelle Huddon, je suis un fan d'Isabelle Huddon, et ce qui est clair dans son attitude, c'est elle qui décide si c'est un échec ou non.
Ouais.
La première fois que tu fais une erreur, c'est pas un échec, c'est une leçon. Mm. C'est que si tu la répètes deux fois, trois fois, c'est là que ça commence à avoir l'air d'un échec. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Puis il y en a partout, là. On en a tous des échecs comme ça. Les gyms sont pleins dans le mois de janvier. Au mois d'août, sont vides. Comment ça se fait? T'es pas supposé être en forme au mois d'août?
Oh, même au mois de mars, là, le monde a dû lâcher ce mois-ci.
Exactement. Ouais, ouais. Fait qu'on le voit partout. Moi, je me dis toujours, j'ai une
peine. Puis ça peut générer un sentiment d'échec aussi. Ça. C'est pas que des grands. C'est pas forcément dans les grandes choses non plus. C'est aussi dans les petites choses comme celle-là. Dire, ben tiens, je m'inscris au gym en janvier, puis deux mois plus tard, pas être capable d'avoir tenu ce pari avec toi-même. T'sais.
Oui, puis là, tu rentres dans ta tête.
Ouais.
Puis aussitôt que tu rentres dans ta tête.
Je suis pas bon. Je suis pas capable.
Oui.
J'y arriverai pas. Déjà que les autres te disent ça souvent, hein? Les
ben
gens
oui,
disent
puis,
ça souvent.
Puis t'en as d'autres qui l'ont pas fait eux non plus. Fait que là, tu te rejoins à ces personnes-là et tu rentres dans des patterns, des comportements négatifs qui affectent plein d'autres bouts de ta vie. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu fasses l'équilibre puis tu dises, ah, je vais me rappeler de mes succès. Puis là, tu regardes des photos, tu lises tes cas, faut que tu retournes dans ta matière qui va te mettre un sourire aux lèvres.
Je voulais qu'on parle à Martin Fontaine ce matin, parce que Martin, vous le connaissez, il est chanteur, il personnifie avec justesse plus que ça, même Elvis Presley, c'est sans doute celui sur la planète qui personnifie le mieux le chanteur Elvis Presley. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un documentaire avec Martin Fontaine à Vegas, où il retournait sur les pas d'Elvis. Martin est avec nous ce matin. Merci d'être là, Martin Fontaine.
Ben merci, bonjour et merci pour l'invitation. Ça me fait tellement plaisir.
Et ça fait un petit moment qu'on s'est parlé, puis j'ai vu dernièrement dans le journal que tu lançais ton spectacle, que tu avais même comme...
Ben oui, je suis un nouvel entrepreneur.
C'est ça?
Oui. Je suis propriétaire de cabaret. Ça, c'est fabuleux.
C'est incroyable.
Comme un autre...
Mais en même temps.
C'est comme un autre rêve à accrocher dans notre collection.
Écoute, alors je te souhaite beaucoup de succès là-dedans. En même temps, je me souvenais des discussions qu'on avait eues, toi et moi, dans le désert du Nevada, où tu m'avais confié, confié finalement que ça avait été difficile pour toi en arriver à la conclusion que le public t'aimait comme Elvis Presley, mais qui aimait moins Martin Fontaine, chanteur.
Ben, en fait, c'est ce que je pensais. Tu vois, on parle là, depuis plusieurs minutes sur échec, succès, et je me suis rendu compte que c'est toute une question de perception.
Mm-hmm.
J'ai marqué une petite phrase là, comme ça, j'ai marqué « La notion de réussite ou d'échec n'a d'égal que la perception qu'on en a.
Mm-hmm. »
Fait que finalement, c'est quoi un échec ou une réussite? C'est la valeur qu'on y a donnée. J'ai bien aimé tantôt ton mot de sentiment d'échec.
Oui.
Ou d'attitude. Tu sais, tantôt, ton interlocuteur parlait de ça aussi. L'attitude qu'on a face à un projet ou quelque chose comme ça.
Oui.
Moi, je pense beaucoup plus que je m'étais auto-flagellé à cette époque-là.
Oui.
Parce que je pensais que les gens m'aimaient pas. Jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, la voix que j'utilisais, le corps que j'utilisais pour réaliser mon incarnation du bonhomme, ben ça faisait partie de moi, ça faisait partie de mes habiletés, ça faisait partie de ma passion, ça faisait partie de mon talent.
Et c'est un succès énorme, ça.
Ben
écoute,
oui,
il faut
c'est
le
juste
dire.
Le fait de l'avoir essayé et puis de l'avoir créé, c'est déjà des succès. Fait que c'est pour ça que des fois, juste le fait de pour certaines personnes d'essayer des trucs, c'est déjà un succès en soi. Parce que moi, je suis le genre de gars qui va vouloir éviter l'échec à tout prix.
En faisant quoi?
Je me mets pas en position d'échec. J'essaie toujours de faire des risques calculés, que ce soit dans n'importe quoi. J'ai tellement ça en aversion, l'échec, que je vais essayer de ne pas essayer.
Ouais. Ben, c'est ça, mais essayer de ne pas essayer, ça veut dire que des fois, tu restes chez vous, tu restes dans le statu quo, Justin, parce que c'est ça que ça veut dire aussi, ne pas se mettre en position d'échec, des fois, puis il y a beaucoup de gens qui le font.
C'est rien faire.
Peace ou chicken, c'est ça.
Il faut que tu apprennes de tes échecs, puis il faut qu'ils te motivent. Moi, je parle souvent d'un réservoir invisible que j'ai sur le dos. Toutes les choses négatives qu'on me lance, je les mets là-dedans. C'est mon carburant. Toutes les leçons que j'ai sur mes cicatrices de tous les échecs de ma vie, ben je les mets dans mon réservoir. C'est ça qui me motive, non seulement à ne pas les répéter, mais à travailler plus fort, à continuer. Quand on pense à l'échec, Newton, là, celui qui a inventé l'ampoule, il n'y a personne qui est capable de deviner. Je leur demande toujours, savez-vous combien d'échecs il a eu avant d'inviter inventer l'ampoule? 1000 fois, il a essayé.
Ouais.
Oprah Winfrey s'est fait dire qu'elle n'était pas faite pour la TV. Walt Disney s'est fait dire... il a perdu son emploi dans un journal à Kansas City parce qu'il manquait de créativité.
Walt Disney, ça a été difficile pour lui. Il y avait un documentaire il n'y a pas longtemps que j'ai vu. C'était fascinant. Il était difficile, mais il avait une mauvaise attitude aussi...
Mais ce que le gars du Kansas City Star il a dit, c'est que t'as pas d'imagination.
Écoute, ça,
J.K. Rowling s'est fait dire non 8. Fait que, tu sais, c'est quand t'entends ces histoires-là, tu vas, tu sais quoi, je vais être correct, puis je vais continuer, puis si je tombe, comme dit Georges Saint-Pierre, tu tombes 7 fois, tu te relèves 8.
Oui, mais c'est toujours ça. C'est pour ça que je trouve que ça devient une question de perception. Parlons de justement l'athlète olympique médaillé 3 fois, mettons, dans sa carrière. Il a battu tous les records. Puis là, son objectif, c'est de battre son propre record. Il le fait pas à 1/1 de seconde. Là, il est déçu. Il dit c'est un échec. C'est relatif, en maudit. Tu dis c'est l'athlète olympique qui a battu tous les records, tout ça. C'est une réussite totale. Donc, c'est seulement la perception que soit les gens ont ou que nous-mêmes, on accorde à tel ou tel
Tellement. Projet, Alex Harvey, là, qui vient de raccrocher ses skis. Deuxième à Québec, médaille d'argent. C'est comme s'il avait eu l'or plus. J'ai un ami olympien qui a eu 2 médailles d'argent qui s'est toujours considéré perdant. Fait que ça dépend ce que tu fais avec ta médaille.
Ben,
c'est la même couleur de médaille.
Il y a des marques. Nike a fait une pub. Tu gagnes pas l'argent, tu perds l'or.
Ouais, c'est ça.
Mais moi, la personne qui a gagné des médailles d'argent, qui en est triste, je lui dirais, va voir celle qui a fini 4e.
Va voir exact. Martin, là, où est-ce qu'on peut aller te voir? Là? C'est où ton nouveau...
Écoute, moi, c'est le Memphis Cabaret, absolument. Ne retenez que ce mot-là.
Memphis Cabaret.
Memphis Cabaret, c'est maintenant le prolongement de mon corps, de mon âme.
Et c'est où?
Et c'est à Trois-Rivières, sur la magnifique rue des Forges, en plein centre-ville.
Parfait. On ira te voir, Martin. Merci
beaucoup. Absolument. Vous allez voir, ça, c'est tout un succès.
Thank you. Thank you very much.
Et je mets une de mes tunes préférées. Ça me donne l'occasion de mettre une de mes tunes préférées d'Elvis, Suspicious Mind. On revient avec les commentaires de nos auditeurs au 514-790-9850. Échec ou réussite, lequel vous vous souvenez le plus? So if an old friend I know stops by to say hello. Bonjour Kevin, on me dit que vous avez 22 ans.
Oui, tout à fait.
L'échec, la réussite, comment vous dealez avec ça, Kevin?
Ben écoutez, pour avoir vécu beaucoup d'échecs dans la vie, j'ai fait beaucoup de remarques
d'introspection?
Exactement, puis de regarder aussi la psychologie de l'humain en général. J'ai remarqué beaucoup pour m'avoir tenu avec des gens qui avaient beaucoup de problèmes face à l'échec aussi. Je crois que c'est dans notre génétique d'humain, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la peur de l'échec. Mon premier point est que l'humain en général n'accorde pas assez d'importance à la réussite. La réussite qui est du positif, le positif qui vient bien moins marquer l'être humain que le négatif. Le négatif va venir dans la psychologie de l'humain désorienté, beaucoup d'introspection, pourquoi j'ai fait ça de cette façon-là. Ouais.
C'est drôle, Kevin, parce que vous m'avez fait sourire, et Justin Kingsley, mon invité aussi, on a souri tous les deux, même ma recherchiste Isabelle, comme vous avez dit, j'ai 22 ans, et j'ai eu beaucoup d'échecs dans ma vie. C'est une courte vie, 22 ans.
Oui,
c'est quoi votre plus grand échec à 22 ans, vous diriez?
Ben, écoutez, d'avoir perdu tout ce qui m'est cher pour... je veux pas rentrer dans les détails, là, mais en gros, d'avoir perdu toutes les gens que j'aimais, les gens qui m'aimaient pour des substances, pour des...
Vous avez consommé?
Pour des raisons, tout à fait. Puis, j'ai pas peur de le cacher. Je suis un livre ouvert maintenant. Je consomme zéro. Puis, j'ai pu remarquer les deux yeux grands ouverts maintenant, toutes les échecs, tout ce que ça m'apportait comme mal. Et puis, tout le temps où ce que j'étais un consommateur abusif, où ce que je disais, c'était la faute des autres, mon échec personnel, où que tout ce temps-là, l'échec, il venait tellement me peser dessus que j'étais même pas capable de voir, Colin, t'es un bon garçon, t'es serviable, t'es gentil, c'est l'échec vient beaucoup, beaucoup, beaucoup oppresser l'humain, du sens que la personne ne verra même plus les bons côtés à rien. Là.
Ouais.
Je pense que c'est vraiment ça qui vient. Aussi, la peur de refaire la même échec, je pense que ça aussi, ça vient beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer avec la psychologie des gens. Puis, j'aimerais ça savoir aussi les points de vue par rapport à ça des autres personnes. Parce que si on regarde les grandes personnes de ce monde, si on regarde Bill Gates, si on regarde toutes les gens qui ont réussi, autant économiquement, autant que politiquement, autant... comment je pourrais dire ça, psychologiquement, peu importe, les grandes réussites viennent après, comme Justin disait, beaucoup une question de perception,
ouais.
De comment...
Mais j'espère, Kevin, que vous vous oui. dites aujourd'hui, « Hey, ma plus grande réussite, c'est que je consomme plus puis que je suis vivant. »
Oui. Ben, écoutez, ma plus grande réussite à ce jour, c'est ma petite fille de 1 an qui m'a fait réaliser beaucoup, beaucoup de choses. J'espère que tous tes parents ont le même...
Ouais. Merci beaucoup, Kevin. Puis je suis contente parce que pendant la pause, on se disait avec Justin, c'est pour les jeunes qui nous écoutent qu'on a cette discussion-là, puis c'est un jeune qui nous appelle. Merci, Justin Kingsley, d'être venu nous voir. Merci beaucoup. On encourage les gens à aller lire le livre du don, écrit par Justin. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une entrevue juste sur le livre, ce livre-là.
Anytime, ça me ferait un grand plaisir.
Merci.
Tu veux un livre qui est à la fois une réussite et un échec? Le voilà.
Le livre du don. Merci beaucoup, Justin. Après la pause, comment râper pour vous acheter une propriété?